Pas très compliqué, mais c'est quand même suffisamment enquiquinant pour mériter qu'on s'y arrête, qu'on s'aperçoive que Lacan, donc depuis la conférence, la troisième à Rome, quand il dit c'est écrit, eh bien il se préoccupe de cette histoire. Comment écrire le nouveau roméen et en quoi ça nous concerne dans l'analyse. Je vous dis, ça vaut ce que ça vaut, c'est, je ne sais pas, personne n'ose penser un truc aussi bête, mais n'empêche que c'est ça dans sa vie. Si on a l'idée qu'il y a une structure, on va penser à une structure, ce nouveau roméen présente une structure qui n'est pas quelconque, parce qu'il ne s'agit pas simplement que ça tienne ou que ça ne tienne pas. Il y a différentes façons de faire tenir des ronds, puis il y a des ronds qui ne tiennent pas entre eux, il y a des ronds qui sont éparpillés. Bon. Et donc, parmi ceux qui tiennent, ils peuvent se tenir, donc, comme je l'ai déjà dit, en étant enlacés les uns avec les autres, la chaîne olympique, ou bien ils peuvent être diversement borroméens, c'est-à-dire qu'il y a les purs borroméens qui sont tels que si on retire un rond, les autres sont libres, c'est celui-là. Et puis plus tard, on en parlera à la fin, c'est à la fin du séminaire, mais on en parlera à la fin du commentaire de ce séminaire-là, parce qu'après, Lacan va revenir à des questions différentes pendant les quelques années qui suivent, un succès de l'une des vues et le moment de conclure. Donc c'est dans la topologie et le temps qu'on trouve le nœud borroméen généralisé, qui est une façon de tenir aussi, de faire tenir des ronds entre eux. Bon. Et puis alors là, qu'est-ce que Lacan a trouvé pour nous? Bon, il y a des trucs élémentaires, quoi. C'est, si Joyce, Lacan l'appelle le symptôme, il dit c'est son nom, dans le compte-rendu qu'il fait de la conférence, l'écrit qu'il a donné de la conférence de la Sorbonne. Oui, il intitule l'écrit Joyce le symptôme, et il dit... Le Saint, Joyce le symptôme, comme Jésus la caille, c'est son nom, jeune homme. Puis, ce nom, bon alors tout le monde s'aperçoit, c'est aussi bête, qu'il s'appelle Joyce, que ça l'agaçait que Freud s'appelle Freud et Jung, et puis que tout le monde se précipite tête baissée dans l'idée que donc le symptôme, c'est la jouissance, parce que sa Joyce, sa joie, où ça jouit, alors voilà, on a tout compris, c'est à peu près à ça que se résume ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de ce que j'ai pu lire du séminaire de symptômes, c'est que il s'appelait Joyce, donc le symptôme c'est de la jouissance, et Joyce est psychotique et puis Lacan s'intéresse au fait que dans une chaîne des ronds, ça peut être libre ou ça tient. Donc c'est pas si simple. Déjà, alors pour commencer, je vous dis tout de suite que je prends le séminaire Le Saint-Aune à la hauteur de la leçon numéro 2. Et dans cette leçon numéro 2, nous avons l'argument principal de ce séminaire que nous allons suivre et qui va trouver à se résoudre cet argument dans la leçon numéro 11. C'est ça la première chose que je voudrais indiquer pour charpenter tout le reste qui va s'organiser autour de cette ligne de fil rouge. Lacan est très embêté et dès le début il est embêté par ça et par une autre question qu'on va traiter après, mais par celle-là qui est, voilà, vous avez une structure, pourquoi pas l'écrire comme ça? Et je vous disais la dernière fois que c'est vraiment pas compliqué, on peut bien dire que c'est la même chose, parce que là il y a le même nombre de croisements. Ici il y a 6 croisements, ici il y a 6 croisements, donc il n'y a rien à ajouter que fermer la droite infinie en cercle. Donc c'est pas compliqué, il n'est pas compliqué de retrouver ça là-dedans. Hein ? Il suffit de fermer la droite infinie en cercle. Et Lacan, depuis RSI, le dit 5 fois. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de croisement à ajouter. Ça se ferme sans qu'il y ait de singularité. Donc on peut fermer ici, disons, on peut retrouver dans ce cas-là la structure sans savoir lire. C'est ça ce que je veux dire. Il n'y a qu'à rajouter un trait pour fermer le cercle. Vous n'avez pas besoin d'être un lecteur. Vous n'avez pas besoin de la science des rêves de Freud pour apprendre à lire les rêves. De savoir ce qui se passe dans l'autre, à l'autre bout. Parce que, vous voyez, la droite infinie, bon, je peux la fermer infiniment, je ne sais pas, je peux aller la fermer comme ça, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Vous voyez, bon. Alors, vous allez me dire, le point infini, vous voyez, on est content de le voir très loin, mais je suppose que vous avez une idée un peu simple de l'infini. Après tout, le point infini... Dans cette topologie, il n'est pas très loin. Il est là. Pourquoi ce ne serait pas le point à l'infini? Il n'y a que Milner que ça fracasse parce qu'il y a un symptôme justement avec ça. Et donc le point à l'infini, il est ici. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça, cette histoire de Desargues, des mathématiques de Desargues, c'est magnifique. Desargues, c'est un contemporain de Pascal, hein, je vous ai dit ça. Et pour lui, la droite infinie, c'est un cercle. Donc, depuis, on a inventé la notion de compactification, en topologie, pour achever. Et ce qui nous importe, nous, dans l'analyse, c'est que c'est un cas très surprenant d'achèvement où il s'agit de rajouter une lettre qui n'a aucun sens. Donc ça, c'est intéressant pour nous, parce que c'était la difficulté sur laquelle butait Freud, pendant des années, à propos de l'identification. Relisez Direction de la cure de Lacan, il parle de cette question de la théorie d'identification chez Freud, et il dit, bien, Freud a réussi à... Freud parle de l'identification hystérique depuis le rêve de Abel Bouchère, il nous fait un commentaire sur l'identification hystérique dès la Traum de Thun, dès le début du siècle, et il faut attendre Deuil et Mélancolie pour que Freud, qui dira aussi, d'avoir trouvé que l'identification, c'est bien l'échec de la demande, comme le dit Lacan, c'est-à-dire que l'objet jette son ombre sur le moi. Dans Deuil et Mélancolie, Freud dit qu'il s'est aperçu de ça, et ce qui résistait à ce qu'il achève, à ce qu'il finisse, à ce qu'il... Oui, le terme correct, c'est d'achèvement, il achève sa théorie d'identification. C'était qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée que l'objet, l'élément sur lequel prend appui le sujet pour s'identifier, mais pouvait n'avoir aucun sens. C'est-à-dire qu'il découvre que c'est de l'ordre du phonème, puisque c'est ce que dit Baudouin de Courtenay, comme nous l'explique Jacobson de multiples fois. particulièrement dans les six leçons sur le son et le sens, mais il le dit extrêmement bien aussi dans son livre qui s'appelle La charpente phonique du langage, c'est publié chez Minuit, tout ça. Et je pense que le phonème, enfin moi je ferai bien un cours rien que sur le phonème, parce que le phonème c'est l'argument de la modernité que ceux qui les pensaient explicitement ou non, le veuillent ou non, la notion de phonème c'est quand même ce que nous ne, ce qui nous met dans une situation où on peut nous parler de, si on veut, les gens qui ont pompé dans le séminaire Lacan à une époque, du temps du séminaire 4, du séminaire 11, dans les 4 concepts de la psychanalyse, l'anamorphose, tout ça, ils peuvent ensuite parler de postmodernisme et tout ça, mais pour moi, c'est une plaisanterie, parce que ce qui me paraît beaucoup plus sérieux, c'est qu'on n'arrive pas, sans Lacan, même Freud n'y arrive pas, alors, à résoudre ce problème de la modernité, on va prendre ça comme ça, c'est que à partir de Baudouin de Courtenay, ça a été un éclair, comme ça, un orage dans le discours occidental, s'apercevoir que les phonèmes, c'était que les sons de la phonétique n'avaient rien, aucune de leurs qualités n'avait la possibilité de donner aucune signification, et qu'ils étaient absolument, alors Saussure, il dit arbitraire, mais il faut dire contingent, nous dit Lacan, les sons de la phonétique, ce ne sont pas les sons de la phonologie, c'est ce que essaye de dire de Saussure avec son signe linguistique, en disant qu'il y a nécessairement deux faces, le signifiant et le signifié, mais manque de peau, il nous fait retomber avec ça dans la représentation. Alors qu'il ne s'agit même pas de représentation. Il s'agit de dire qu'il y a nécessairement un son, et ça sera aussi la même chose pour les lettres, donc il y aura nécessairement un graphème, ça sera ce que Lacan appelle l'instance de la lettre, hein, un vautour peut apparaître dans un hiéroglyphe, il n'est pas question de vautour. C'est le béaba, la science des rêves, un parapluie apparaît dans le rêve, et bien il ne s'agit pas, le rêve ne parle pas, n'écrit pas quelque chose qui traite du parapluie. Et même Jones n'arrive pas à s'en sortir, puisqu'il dit qu'il y a des signifiants fondamentaux, et il ne découvre pas la métaphore, c'est-à-dire ce glissement perpétuel et insensé apparemment, monstrueux qu'il y a dans la langue, qui fait que n'importe quoi peut servir à signifier n'importe quoi. Donc le phonème, c'est bien cette idée que les mathématiciens retrouvent dans l'objet de compactification. On prend une lettre, on a un système composé, comme par exemple la droite infinie, hein, l'ensemble des nombres réels, qui est infini des deux côtés. On prend une lettre, oméga, on l'ajoute, on la met en fonction, et il y a un théorème qui dit que si l'espace, c'est le cas de la droite infinie, si l'espace est localement compact, il suffit d'ajouter une lettre dont qu'on peut appeler n'importe comment, donc appelons-la A ou oméga, comme vous voulez, et hop, c'est constructible, ça permet d'achever la droite infinie et d'en faire un cercle. Bon. Moi, je tiens que Winnicott, il s'est aperçu que les enfants, ils faisaient ça. L'objet transitionnel, c'est une lettre, justement. Ce que fait l'enfant avec son chiffon, là, comme résonateur d'angoisse, pour achever le processus dans lequel il se trouve pris, en relation avec la mère, et bien, il achève le lieu, l'espace de la libido avec cet objet transitionnel. Et donc, moi, je dirais que les fétiches et les objets de phobie sont dans cette diffraction qu'est le désir, qui tombe sur le corps. Nous voyons le désir qui se réalise comme dans cet arc-en-ciel ou cet éventail de l'objet d'une phobie jusqu'à l'objet fétiche. Entre fétiche et objet, il n'y a pas de déviation sexuelle, parce que la sexualité, c'est cette déviation qui fait que le sujet il est écartelé entre phobie et fétichisme, perversion, entre névrose et perversion, et que justement ces objets il ne les comprend pas, mais que ces objets qui le dérangent ou qui le fascinent, eh bien ce sont des objets transitionnels ratés. Voilà. Donc un enfant est capable de finir, d'achever, donc on peut finir son analyse. Ceux qui nous disent bon, la passe, il ne s'agit pas de savoir si on peut ou pas finir son analyse, ça on peut finir son analyse. Bon, tout le monde vous dissuade de le faire parce que personne ne comprend l'enjeu du texte de Freud qui s'appelle analyse finie, analyse infinie, mais une analyse, ça se finit simplement parce que les enfants savent construire un objet transitionnel. J'entends cette analyse qui va de névrose à perversion et qui est tendue dans ce qu'on appelle les névroses de transfert. Voilà. Alors ensuite, il y a la question qui se pose du rejet de ça, de la psychose, et de la psychanalyse elle-même, celle de Freud, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la psychanalyse pour vraiment analyser la névrose de transfert. Hein, vous vous souvenez dans l'article de Lacan sur la famille, Lacan signalait déjà qu'il y avait à l'époque, quand il a écrit ça, pour Vallon, il y avait déjà à l'époque, on parlait des névroses familiales, des symptômes familiaux, et que les névroses familiales étaient réputées comme n'étant pas des névroses de transfert impossibles à traiter par la psychanalyse. Déjà, Lacan, à l'époque, s'oppose à cette idée. C'est pas parce que ce ne sont pas des névroses de transfert, donc il va falloir voir qu'est-ce que c'est que la névrose de transfert, qu'est-ce que c'est effectivement que cette façon de l'achever avec un objet. Névrose de transfert ou perversion de transfert, si vous voulez. On pourrait appeler ça aussi perversion, puisque de toute façon, le sujet, il est écartelé entre les deux. Il essaye d'écrire quelque chose qui s'appelle sexe pour structurer cette libido qu'il ne sait pas comment traiter, puisque notre libido n'est pas une libido uniforme, animale. Notre libido, elle est structurée par des coupures, par des portes. Vous voyez ? C'est pas seulement pour arrêter le son, maintenant il n'y a plus personne, mais il faut quand même fermer la porte. Parce que la porte, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour le langage, pour la libido. Hein, je vous signale simplement que, regardez, dans une ville comme Paris, la vastitude des espaces intermédiaires, comme les cages d'escalier où personne ne vit, les SDF, ils vont aller s'y mettre pour dormir. Parce que quand on est pauvre, on a du mal à avoir une porte. Hein, plus on est riche, plus on a de portes. On reçoit les gens chez soi. On a une entrée, on a un salon, puis il y a des portes pour se fermer la cuisine, les espaces privatifs, il y a la salle de bain, quand on est très riche, on a même un cabinet de toilette pour les visiteurs, il y a des trucs qui sont semi-privés, semi-publics. Puis alors si on est moins riche, on a juste une petite maison, et puis des fois on a juste la porte directe de la maison qui s'ouvre dans la rue ou sur la route nationale. Et puis si on est encore plus pauvre, ben, on a finalement, on est dehors, on couche dehors, on n'a plus de porte. Et donc c'est lié à... C'est quand même un truc, c'est pas seulement une affaire de richesse ou de pauvreté, c'est une affaire d'écriture et de lisibilité. Et c'est ça qu'il faut dire pour parler sérieusement de ces choses-là. C'est pas simple, parce qu'on sait pas ce que c'est, parce qu'on sait pas comment ça marche. Bon. Et c'est un fait que plus on est nanti, plus on a les moyens, plus on sait se débrouiller dans la rigueur et le manque de rigueur, dans la rigueur, dans la science aujourd'hui et dans la métaphore, une plus grande approximation, une plus grande souplesse, on est plus ou moins voué à ne pas avoir beaucoup de portes. Et beaucoup de ça, c'est beaucoup de séparation avec l'extérieur. Aujourd'hui, on en est arrivé à cette situation démente où on met, n'est-ce pas, on veut transformer toutes les portes en portes de coffre-fort avec des codes. Des gardiens partout, enfin bon, des caméras, bon, la technologie domine la porte. Je ne crois pas que ça donne une meilleure pratique de la libido. Hein. Donc la psychanalyse a beaucoup d'avenir parce qu'elle étudie ça, alors que les autres s'en foutent, ils croient tous que nous sommes des animaux, des corps d'animaux, nous sommes là pour nous reproduire. N'oubliez pas, par exemple, une indication clinique de Lacan élémentaire, intéressez-vous toujours au lieu où ça se passe, dit-il. Hein. C'est pas la même chose si on a des relations sexuelles dans le placard, dans la cuisine. Il dit l'obsessionnel, ça se passe aux chiottes. L'ophobie, c'est plutôt dans la cuisine. Le lit des parents, tous ces lieux. Alors, bien, il s'agit évidemment de séparer l'obscénité qui est au fond de la vie privée. C'est le lit des parents, c'est le lieu du trauma par excellence. Le séparer par toute une série de portes. Ça s'appelle la pudeur, c'est la structure des coupures, c'est Lacan propose de prendre une coupure simple mais un peu surprenante qui est celle de la bande de Möbius pour commencer à penser ça. Moi, j'ai fait un livre sur les surfaces, et dans ce livre sur les surfaces, apparemment, il s'agit des surfaces, Mais l'intérêt de la théorie des surfaces que je présente, c'est qu'elle présente la théorie d'un bord. Comme le dit Lacan en position de l'inconscient, c'est une géométrie, un bord qui s'ouvre et qui se ferme. Oui, je vous signale, par exemple, la conférence de Lacan sur la psychanalyse et cybernétique dans le livre 2 du séminaire, où Lacan nous parle de la nature, le sous-titre c'est la nature du langage, vous voyez qu'il ne fait que parler de la porte. Alors il l'associe ensuite avec l'étape de vérité 0-1, l'interrupteur électrique, parce qu'il y a un modèle électrique de l'algèbre de Boole, et il dit bien que c'est une affaire d'ouverture et de fermeture. Alors voilà, vous avez cette question des coupures. Cette libido, elle est le sujet, il a beaucoup de difficultés parce que c'est déjà de l'écriture, c'est une géométrie, c'est de l'écriture. Regardez, c'est une écriture, la géométrie, par exemple, l'optique géométrique, c'est une écriture qui se réalise en microscope, par exemple, ou en télescope. Bon. Donc cette écriture, elle est là pour fonctionner comme porte. Et l'argent, la valeur monétaire, c'est de l'écriture. Aujourd'hui, c'est un système mondial qui circule dans des réseaux électroniques. Mais n'empêche que sa fonction, c'est de séparer ou de réunir. Sa fonction, c'est la ségrégation humaine. C'est pas seulement les femmes qu'on essaye de ségréguer, mais vous voyez bien que cette ségrégation, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle savoir à qui on a affaire. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un ? Regardez comment fonctionnent les banquiers. Ils continuent toujours. Ils ont une mentalité un peu flic, là, il vous donne un conseiller qui va en fin de compte surveiller, de voir un peu qui vous êtes, savoir si on peut vous faire confiance, si on vous prête de l'argent. Le problème de la ségrégation, souvenez-vous, regardez l'importance que ça a aujourd'hui dans notre civilisation du premier monde, du Nord, là, de l'Atlantique Nord. C'est, regardez ce que dit Max Weber des sectes. Le jour où il voit un type se faire baptiser par un baptiste qui plonge dans l'eau, un type dans un village aux États-Unis, et il y a un vieux qui est à côté de lui qui dit « Oh, celui-là, il vient de gagner des millions de dollars. » Alors Max Weber, il réfléchit, il dit « Mais pourquoi il dit ça, le vieux ?» Et puis il s'aperçoit que le type qui vient d'être baptisé, il ouvre justement une succursale de banque dans le village. Et que donc, pourquoi est-ce qu'on va se faire baptiser dans une secte baptiste quand on veut ouvrir une succursale de vente ? Parce que, il fait la remarque suivante, quand vous êtes dans un pays de conquête, là, c'est des immigrés, ils ne sont pas là depuis, c'est des gens qui sont rentrés dans l'histoire, ils sont dans l'exode. Alors on ne sait pas d'où viennent les gens. Donc, comme les sectes font des enquêtes sur les membres qu'ils vont accepter, ça donne une certaine patente. Donc, comme ça, on sait, celui-là, il a été accepté par la secte, on peut un peu lui faire confiance, un peu plus que si c'était quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il vient. Voilà. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les grandes religions sont moins appréciées que les sectes, justement, fait remarquer la Max Weber. Bon, vous voyez que c'est devenu aujourd'hui un engouement, parce qu'on vu le renoncement de la pensée contemporaine en matière de lecture, c'est-à-dire l'abandon à cause de Lacan. Enfin, je veux dire, Lacan est indigeste et indigérable. Donc tout le monde a préféré faire refluer vers des pensées plus réactionnaires ou plus progressistes, mais qui cachent. On ne dit pas qu'on a lu Léo Strauss, qu'on lit Kogel en cachette. Bon, on nous le ressort comme ça à la télé. Franz Fanon, c'est pas bien. Parce que Léo Strauss, il dit un truc quand même extraordinaire. Il dit que Hitler est plus civilisé qu'un sauvage, parce qu'il explique que le nazisme, c'est l'effet du nihilisme qui accompagne l'idéalisme allemand, et qu'on est nihiliste pour des raisons non nihilistes. Ça, c'est quand même intéressant. Il a sûrement raison de ce point de vue. Mais il a cette phrase qui choque quelqu'un qui a lu Lévi-Strauss après la guerre. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que dit Léo Strauss dans les années 40-41, sur sa conférence sur le nihilisme et l'idéalisme allemand. Il a raison que le nihilisme allemand était le fruit d'un idéalisme, d'une philosophie très élaborée. Mais il dit quand même que Hitler est un type plus civilisé, moins barbare que les sauvages. Alors vous voyez, nous on a changé quand même de culture sur ce point. Ben, on nous ressort ça dans les années 70, que Franz Fanon, qui aurait défendu la culture des colonisés dans les damnés de la Terre, finalement, quand les socialistes reprennent ça en disant que les Santiacs c'est de la culture, ça c'est ridicule. Bon, peut-être que la culture bobo des intellectuels de gauche des pays nantis peut paraître ridicule. Bon, mais je pense, moi, que Fanon a raison. Je veux dire que le colonialisme, il a quand même... Il a, par exemple, regardez l'Afrique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un peuple de la parole, c'est un continent de la parole, c'est des gens qui ont réussi à subvertir la musique occidentale. Tout l'orchestre symphonique, ils en ont fait la musique qui s'est imposée au monde industriel. Ça s'appelle le jazz, c'est devenu pour les gamins blancs le rock'n'roll. Il s'appelle Elvis Presley, le petit blanc qui a muté. Bah, mais écoutez, c'est quand même extraordinaire de dire que c'est des gens qui ne sont pas civilisés. Moi, je ne vais pas faire des procès à propos de l'esclavagisme, l'esclavage. Mais je suis de l'avis quand même qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est que nous avons la responsabilité de bien parler de ce qu'il en est de la parole et de ce qu'il en est de l'écriture. Et c'est sûr que le continent africain est détruit par le fait que l'écriture, ils n'en ont pas le même usage que les banquiers, les sociétés d'assurance et les avocats américains. Et européens aussi, pourquoi pas. Hein ? Vous avez une très belle séquence de Lacan sur l'avocat américain, d'un autre à l'autre. Je vous signale, ça c'est extrêmement intéressant. Hein, il dit bien que ce sujet-là, c'est aussi comme notre employé moyen, le sujet de la science, c'est un sujet extrêmement important pour cette civilisation impérialiste. C'est-à-dire qu'il est impérialiste parce que c'est pas l'Amérique, c'est l'impérialisme, si vous voulez, c'est la Hollande. Les Américains, c'est les Hollandais. Mais c'est surtout la civilisation scientifique. Bon. Et il y a un rôle de l'écriture, une fonction de l'écriture qui n'est pas la même que celle de la parole. Et moi, je ne vais pas vous faire, avec la psychanalyse, une apologie de la culture orale, du retour à ceci. Bon, non. Le problème, c'est qu'il faut qu'on dise pourquoi Freud propose à des gens de venir voir quelqu'un pour parler. Bon. Et puis, ensuite, il faut voir que Freud, c'est quelqu'un qui écrit. Hein. Donc, le fait d'offrir la parole aux patients, je pense que c'est ce que Lacan appelle la charité freudienne. Hein, à Rome, dans la troisième, il se moque de cette charité freudienne. Il dit c'est l'archi-raté, la charité. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas un lettré, vous pouvez commencer par parler. Allez-y, parlez, dites tout ce qui vous passe par la tête. Mais quel est le but du jeu ? C'est sûrement pas la liberté, l'association libre, hein. Alors Lacan tempère le truc lentement, hein. Il dit bon, il faut que cette association libre soit accompagnée de l'attention flottante, de l'analyse. Bon, vous voyez, il ménage son public. De manière à ce que, d'ailleurs, justement, plus personne n'y comprenait rien, parce que finalement, pourquoi parler dans l'analyse ? C'est parce que le transfert, c'est justement, ça commence quand le sujet ne peut plus parler, se tait. Et quand on arrive à cet endroit où nous tombe dessus une structure, la grande répétition, je veux dire, quelque chose qui vient de la droite infinie, qui nous passe dans le corps, est-ce que ça vient par les oreilles ? Les oreilles ont une grande importance au départ dans le trauma. C'est ça la chambre à coucher des parents, le lieu où les parents ne s'entendent pas crier. Et c'est aussi quand ils s'engueulent, hein, même au salon, bon, ou dans la rue, pourquoi pas, ça se voit, hein. Et si les enfants, s'ils entendent ça, ils voient bien que les parents, ils ne s'entendent pas parler, qu'on dise, le fait de parler, on oublie qu'on parle. Et les gens qui écrivent, ils oublient qu'ils écrivent. Les lettrés, ils oublient qu'on parle et ils oublient qu'ils écrivent. Alors eux, ils sont dans la béatitude totale, vous voyez, c'est le paradis. Le langage, pour eux, c'est comme la respiration, c'est végétatif. Alors manque de peau, ça leur rend la tâche extrêmement difficile pour arriver à s'intéresser à cette évidence qu'on parle et on écrit, mais qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait. On ne sait pas comment on fait. On croit savoir, on peut s'armer de dictionnaires ou de références, n'est-ce pas, d'un savoir référentiel formidable. Il y a cette histoire de savoir textuel, comme ça, en acte, qui est quand même très problématique. Et donc, moi je tiens qu'il y a une psychanalyse qui arrive à un point où Lacan va instaurer les séances courtes, il le dit. Hein. C'est un moment où il y a un pivot, un tournant, quelque chose qui tourne, et on passe d'une clinique de la voix à une clinique du regard. Et à la fin de sa vie, tout le monde se plaint justement que Lacan, il n'écoutait plus personne, il ne disait plus rien. Alors, ils en ont même fait un aphasie dans la famille. Ni dans la famille, ni nulle part, il disait plus rien. Il disait très peu de choses, il n'avait plus du tout envie de parler. Par contre, il était de plus en plus intéressé à ce qu'on lui montrait. Il disait toujours, montrez-moi. Moi, il m'a toujours dit ça. Quand je lui disais, j'ai écrit un truc sur... Hop, il me disait, amenez-le-moi. Il me l'amenait, il me le piquait, il ne me rendait pas.